first time I tried an open mic, I knew.
J'espère exciter ce matin parce qu'on retrouve une collaboratrice, Max. Fait longtemps qu'on y a pas jasé ensemble.
On y jasait cet été.
Puis là, ben, tu trouves des raisons de te jaser quand tu te manques, hein?
Ben, c'est
ça. L'actualité nous en a donné aussi parce qu'il paraît qu'on est plus gros que jamais. Fait qu'on a des questions à poser à Vanessa Daigle, qui est nutritionniste, qui nous rejoint ce matin. Vanessa, comment ça va?
Bon matin, ça va super bien.
Je suis vraiment contente qu'on puisse te retrouver en onde. On te parle pour ça, mais on te parle aussi parce que tu es rendue autrice.
Oui, madame.
Autrice d'un livre. On va jaser de tout ce qui est différence entre les hommes et les femmes, simple de même au niveau de la nutrition. Est-ce qu'on s'alimente de la même manière? Est-ce qu'on a les mêmes besoins nutritionnels? Les hormones, c'est une vraie affaire?
La même manière, je pense que oui, là, au niveau de la bouche, souvent, c'est par là que ça passe.
C'est le fun parce que tu suis toujours autant, Max. la pertinence de ce show-là, oui. C'est définitivement toi.
C'est la force, majeure. La force numéro un.
Oui, ça n'a pas changé. Je veux juste dire, parenthèse, le meilleur de Max pour votre segment avec Nathan...
T'aimes ça?
Ça doit être ça.
Ah ouais, hein?
J'ai ri dans mon char.
OK.
Le meilleur de Max.
On va y penser.
C'est vraiment bon.
OK, merci du...
Parenthèse fermée.
Ouais, parfait. Good.
Donc, on a vu dans l'actualité, en passant, si vous avez des questions nutritionnelles qui touchent de loin ou de proche, la nutrition, l'entraînement, tout cet univers-là, 88-971-102, on pourrait répondre plus tard à la fin. Vous avez certainement vu passer les articles qui disent qu'on est plus gros, plus obèse que jamais au Canada. La question, c'est pourquoi? Je pense qu'on a mille et une pistes de réponse. On est sur nos écrans, on bouge pas assez, les mêmes patentes que d'habitude, finalement. Mais moi, il y a un bout qui m'énerve, Vanessa, c'est l'IMC. C'est-tu moi ou c'est plus ben à jour, mettons, pour dire qu'on est tous gros?
Je suis donc bien contente que tu m'en parles.
Je l'ai pris personnel, je pense.
Mais je suis comme, voyons qu'on est encore avec des données sur l'IMC, puis c'est une étude qui est full récente, genre de 2022 à 2024. Mais bon, c'est important, effectivement, là, de faire le point sur l'IMC. En fait, l'IMC, là, ça a été vraiment mis de côté d'un point de vue médical. Pourquoi?
Bien, à la base, on peut-tu me rappeler c'est quoi l'IMC?
Oui!
C'est pas fou, ce Max!
Pour vrai, quand j'ai vu les articles cette semaine... Je me suis dit, ouais, l'IMC, je me souviens, il me semble que dans un cours au cégep, on m'avait fait calculer mon IMC.
Ton mais poids et ta grandeur,
je me souviens.
Fait que... Honnêtement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas calculé, fait que je suis pas sûre que je l'ai vraiment en détail, mais je pense que c'est ton poids en kilogrammes divisé par ta taille en mètres au carré. Mais dans le fond, ce qu'on doit se retenir de ça, là, c'est que dans le fond, ça prend en considération exclusivement ton poids puis ta taille. Mais tu sais, si toi, tu es faite large, tu sais, moi, je me souviens à l'université, là, tu sais, justement, on apprenait à calculer l'IMC, puis là, j'essayais de calculer l'IMC de mon chum, puis mon chum, il est faite large, tu sais, il a le dos large,
on
n'a pas
tout le même
très
frame.
Grand. T'sais, c'est ça. Puis ça me donnait tout le temps à baisse. Puis j'étais là, c'est sûr, ça marche pas. J'ai calculé 8 fois. Ça me donnait à baisse. Mais j'étais comme, mais voyons, il n'est pas à baisse.
Pour te donner une idée, Max, là, avec ce calcul-là, ils disent qu'à moins 18, t'es dans un poids insuffisant. Puis quand t'es entre 25 et 30, t'es en surpoids. Moi, j'étais à 26. On l'a calculé en nombre quand les articles sont sortis. Fait que moi, je suis considérée obèse.
C'est fou, là.
Je protège mes abdos, là, mais je pense pas que je suis obèse.
T'es considérée obèse
c'est
ou en surpoids?
Ok, c'est ça. Ouais, en bon surpoids.
Puis, au-delà de 30, c'est obèse.
Exactement, au-delà de 30, c'est obèse. Fait que, puis ton poids normal devrait être en 18,5 puis 24,9. Mais encore là, je me dis que ça, puis je suis pas une experte, là, mais je me dis que ça peut pas marcher parce qu'à la base, les hommes et les femmes, si je me trompe pas, on n'est pas tout à fait fait
c'est
pareil.
C'est ça, puis la composition corporelle. Je veux dire, tu vas être super musclé. Là, c'est de plus en plus à la mode, en fait. Ben, je pense que les gens s'entraînent plus que jamais. Là. Mm-hmm. Ça, je pense qu'on a des données par rapport à ça. Fait que tu vas être musclé versus la masse grasse, elle n'a pas le même poids. T'sais. Fait qu'en fait, il manque trop de variables dans ces données-là pour qu'on puisse la prendre en compte d'un point de vue médical ou même d'un point de vue statistique. Fait que ça, je trouvais ça super important puis je suis contente que tu amènes le sujet, Audrey. Cela dit, ça reste que dans cette même étude, on compare l'IMC de genre 2016 à 2019 avec l'IMC de 2022 à 2024.
C'est des pommes avec des pommes.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est des pommes avec des pommes. Fait que, tu sais, ça nous amène quand même à une conclusion qui
qu'on est
véridique. On va être comme obligé de constater.
On s'entraîne
tous
vraiment fort.
Oui, j'aime ça.
Mais je pense pas que c'est ça l'affaire. Puis c'est des données qui touchent les Canadiens de 18 à 79 ans. Fait qu'on a quand même pris un public qui est plus large. Il y a une partie de moi qui y croit là, qu'on est plus...
Je pense qu'on n'aura pas le choix.
Tu sais,
Mais tu sais quoi? Faux, là. moi, ma réflexion, là, parce que tantôt, tu as dit, tu sais, dans le fond, on le sait, là, pourquoi, tu sais, les écrans, on est sédentaire, mais tu sais, ça n'a pas changé, là, ça. Entre, tu sais, les données, c'est pas comme on compare pas à, genre, les 1900, années 90, là. C'est ça. On compare de 2016-2019 puis à 2022-2024.
Fait que c'est quoi le problème?
Le télétravail.
Ben j'ai réfléchi. Télétravail, j'aime ça. Ouais, je pense que le télétravail, mais en même temps, le télétravail, tu sais, parce que c'est une discussion que j'aborde souvent avec mes clients, il y a vraiment des personnes pour qui c'est facilitant parce que, mettons, ils ont le temps d'aller s'entraîner sur l'heure du dîner, ils ont plus de temps, ils n'ont pas de trafic à la fin de la job, fait qu'ils ont plus de temps pour cuisiner.
Le tapis au bureau, plein de monde qui rentabilise cette
fait qu'il y a, il y a des gens pour qui c'est un challenge parce qu'ils ont plus accès au garde-manger, mais je te dirais, overall, puis j'ai peut-être un biais parce que, tu sais, moi, c'est la catégorie de personnes qui consultent, mais overall, moi, j'ai l'impression que les gens, justement, à qui je parle, c'est quasiment facilitant d'un point de vue de santé, le télétravail, versus l'inverse. Moi, il y a cinq éléments, dans le fond, qui ont retenu mon attention quand je me suis mis à réfléchir à tout ça. Premièrement, je me suis dit, la santé mentale. La santé mentale des gens ne va pas très bien. La pandémie n'a pas amélioré la situation. Les gens sont anxieux, la dépression, c'est là plus que jamais.
Je te pose une question, Vanessa, puis peut-être que tu peux me fermer la porte tout de suite, mais la pandémie, as-tu le dos large un peu? Parce que des fois, je me dis, là, on s'en va sur 2026, puis on en parle encore que la pandémie nous a rendu malades, la pandémie nous a isolés, la pandémie. Mais je me dis, il me semble que maintenant, il faut se relever, là.
La pandémie a le dos large. Peut-être qu'on en parle plus à cause de ça, mais somme toute, puis je sais pas, ça pourra peut-être rien à voir avec la pandémie, mais depuis la pandémie, on parle plus de santé mentale que jamais.
C'est vrai.
Puis le lien entre la santé mentale et l'alimentation est extrêmement puissant. Là.
Comment?
Ben, si t'es déprimé, si tu files pas, t'as pas envie de cuisiner, t'es pas motivé, t'as-tu envie d'aller bouger, genre, si t'es déprimé, t'as le goût de t'enrouler dans une doudou puis de chiller sur ton divan, puis il y a le lien aussi entre les cravings alimentaires puis ton niveau de sérotonine au niveau du cerveau, là, c'est vraiment très bien documenté. Si t'es déprimé ou si t'es plus fatigué ou si tu files pas, ton niveau de sérotonine au niveau du cerveau, il est à baisser. Consommer des aliments plaisir, dans le fond, ça amène une augmentation temporaire de ces hormones-là au niveau de ton cerveau, donc tu te sens mieux. Donc, il y a plein de personnes qui mangent de façon émotive. Justement, tantôt, on va parler de la différence entre les hommes et les femmes, mais tellement plus féminin, là, en fait, ça. Fait que c'est sûr que si tu vas moins bien, tes habitudes de vie, tu sais, il en mange un peu une claque. Fait que ça, je pense que c'est un élément à considérer. Ensuite, la diminution des compétences culinaires au fil du temps.
Ah, Max!
Ouais, ça, il y a peut-être des difficultés.
Du riz avec des légumes en canne puis des saucisses, ouais. Ça, c'est comme la recette à Max.
Max, c'est la vie dure quand je viens en studio. L'autre jour, quand je suis revenue chez nous, mon chum, il a dit « Hey, t'es pas fine avec Max. »
En fin de semaine, j'ai même raté une pizza. Là, faut le faire.
Ah oui, je l'ai vu.
Hey, c'est assez
mais au moins, tu l'as pas gaspillé.
Non, je l'ai mangé pareil. Ouais, mais ouais, c'est
mes grands moyens.
Ouais, fait que c'est ça. Mais là, je me dis, est-ce qu'il y a une différence marquée entre 2016-2022? Je ne sais pas, mais je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça. Là. Puis, tu sais, tantôt, justement, dans les données, ce qu'on peut observer, dans le fond, c'est que c'est un petit peu plus chez les jeunes. Fait que les jeunes, clairement, ben de plus ça va, moins les jeunes ont des compétences culinaires. Fait que ça l'aide pas.
Y a-tu le portefeuille? La première réflexion qui m'est venue, moi, c'est ça. C'est le fait que les gens ont de la misère au niveau du portefeuille. Et donc, même, tu sais, je considère que je suis choyée, là. Puis même moi, des fois, je vais à l'épicerie, puis hier, j'ai acheté une pomme grenade.
Comment elle t'a coûté?
Avez-vous une idée? Vous savez, c'est quoi une pomme grenade? Ben oui. Tu sais, les petites graines rouges, Max, c'est quoi? C'est, ça a l'air d'une pomme. Puis quand tu
non, vraiment pas une pomme.
C'est vraiment, non, on appelle ça une pomme grenade parce que c'est rond et c'est rouge, mais
c'est
quand tu la coupes
tachant,
en deux,
là,
ça, c'est des petites graines rouges qui se mangent, là.
Ça fait pop.
Ça te dit rien, j'ai pas les moyens de m'acheter ça.
Mais visiblement, je te le dis, non, t'as pas les moyens. J'en
c'est
le prix d'une
pizza congelée, probablement.
C'est épouvantable. Je tenais à en avoir une, je l'ai payé 6$.
Ouais, ouais, c'est fou.
Non, mais c'est parce qu'il y a pas tant de graines là-dedans. Là.
Mais
achète-la
congelée,
ben là, c'est ça, je me suis dit,
les
sacs sont 5$.
En plus, tu te fais pas chier
ben
à
oui,
la
raison. Mais tu sais, c'est parce que des fois, on dirait que tu veux du frais. Moi, j'imaginais ça dans une salade.
J'avoue qu'il y a dans une salade congelée.
Mais non, c'est fort. Ça peut avoir un impact, j'ai le sentiment, parce qu'on se vire justement vers du surgelé, des affaires un peu plus rapides.
J'ai lu un article du Devoir sur le sujet, puis la docteure qui commentait, en fait, ça a été son premier réflexe aussi, de dire le prix des aliments, effectivement. Les gens, ils n'ont pas le choix de faire des compromis, de se tourner vers des choses qui sont un petit peu moins dispendieuses. Ce qui dit un petit peu moins dispendieuse peut dire un peu moins de qualité, pas toujours. Là. Mais oui, c'est sûr effectivement que ça a un impact.
Mais au-delà des éléments de moins de qualité, compare le prix, je sais pas moi, d'une pinte de lait à un 2 litres de Coke.
Ah ouais, c'est clair.
T'achètes 2 litres de Coke pour une pinte de lait.
Mais tu sais, en même temps, si on a la réflexion inverse, le resto, ça coûte ultra cher, puis les gens commandent en salle.
Ouais,
c'est ça. T'as pas tort. Mais là, rendu là, ça va-tu encore avec le petit bonheur de santé mentale? J'ai comme l'impression qu'on est dans un cercle vicieux ici. Là,
du
parce
plaisir.
Que...
Puis de pas juste... Donc, effectivement, quand on commande, on répond pas juste aux besoins de manger. T'sais. C'est comme, ça peut être festif, ça peut être...
C'est satisfaisant.
Confort,
pas de vaisselle, ça sauve du temps, c'est malade.
C'est bon. Puis...
Mais oui.
Oui, fait clairement, c'est un enjeu. Ensuite, ben, le mode de vie accéléré. Le monde n'a tellement pas de temps. Là. Fait que pas de temps pour cuisiner. Puis je pense que ça va. C'est de pire en pire. Là, dans le fond, on a des horaires ultra chargés. Fait qu'on n'a jamais le temps de cuisiner. C'est notre société de performance, en fait, là, qui ne fait que s'accélérer. Avec les médias sociaux aussi, on se compare beaucoup. Fait qu'on a l'impression qu'on a de plus en plus de pression et de moins en moins de temps. Après, j'ai identifié justement la facilité d'accès au fast-food. T'sais, les fast-food ont toujours été présent, mais là, maintenant, ils peuvent être livrés chez vous. Fait qu'avec Uber Eats, je sais pas c'est depuis quand, ça, Uber Eats. Moi, j'ai jamais commandé Uber Eats. Je sais même pas comment ça fonctionne.
Puis c'est une drogue, là. Parce
ben,
que
c'est ça.
Moi, avant, je trouvais ça complètement débile de se commander de la bouffe puis de payer
2015,
de payer 22$ pour quelque chose qui, au resto, t'en coûterait 10.
Ouais.
Je trouvais ça débile.
Puis maintenant, tu
puis à partir du moment, ben non seulement je le fais chaque jour.
Ah!
Puis je prends les deals, puis les deux pour un. Puis là, souvent, j'essaye de prendre des affaires qui peuvent se mettre dans mon frigo pour avoir deux repas avec les deux pour un. Puis pour vrai, je m'en sors pas pire grâce à ça. Puis ça doit pas me coûter tant plus cher que si je me faisais des épiceries.
Tu commandes chaque jour?
Fut un temps. Là, maintenant, depuis quelques semaines, je fais mon épicerie tous les mardis. Je suis devenu très discipliné.
Ça, je veux juste chapeau en passant, là, parce qu'honnêtement, moi, j'ai connu Max et il y avait littéralement rien dans son frigo. Là. De la bière, genre. De la bière.
Évidemment.
Puis du beurre, peut-être, pour quand sa mère débarque puis il fait une mini épicerie. Fait que, tu sais, les restants de sauce qui durent comme des années.
Mais là, tous
mais
les mardis.
Mais tes aliments actuels, là.
Bravo.
Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est tellement une drogue, c'est tellement facile. Mm-hmm. Hey, je veux dire, mes burgers du Harvey's, là, c'est, pour vrai, des bouts, je mangeais ça tous les jours, des burgers du Harvey's, parce que le deal était bon avec le 2-pour-1, puis c'est délicieux, des burgers
du Harvey's. Mais tu sais quoi? Moi, j'ai eu une cliente qui était... Elle et son chum, ils venaient de région, puis ils sont déménagés à Montréal, dans le fond, pour leurs études. Puis là, à Montréal, ils sont tombés justement là-dedans, là, Uber Eats, à côté. Puis, tu sais, il s'est vraiment rendu problématique. C'était à tous les jours, là. Puis, à un moment donné, elle a dit, on a vraiment pris la décision de retourner en région à cause de Uber Eats.
Oh, ouais, parce que ça avait un impact à ce point-là.
Ouais, genre, il s'en sortait
Dieu.
Pas, là.
C'est intense,
puis, tu sais, il avait pris, tu sais, elle était plus en santé, là, honnêtement. Puis, tu sais, Uber Eats, t'as même pas à sortir. Tu peux rester sur ton divan.
Ah, t'es large jusqu'à
puis,
la fin.
C'est pas juste des repas, là. Tu peux te commander, je pense, des bangs si tu veux.
N'importe
genre.
Quoi,
mais c'est
oui.
ça.
N'importe
c'est,
quoi.
Du dépanneur, même. Ouais. Bref.
Dans l'étude des gens obèses que nous sommes maintenant au Canada, on parle des jeunes. Puis ça, Vanessa, ça m'a surpris parce que, drôlement, on dirait que moi, justement, j'ai jamais vu autant de plus jeunes actifs, les IROX, les compétitions toutes les fins de semaine.
C'est vrai pareil. Hein?
Sérieusement, puis je suis pas le public cible de ces publications-là, mais je veux dire, tu vois, juste en fin de semaine passée, le marathon bénévole, tabarnouche, mon feed d'actualité Facebook, Instagram, le kit, c'était que ça, je me suis sentie coupable de mon dimanche. Là, fait que j'ai l'impression que plus que jamais, on bouge, mais on vise quand même les jeunes de 18 à 39 ans.
Oui, puis quand même une augmentation vraiment marquée, là, de genre, c'est 11% d'augmentation pour les hommes, puis 12% pour les femmes. Moi, tout honnêtement, ça m'a surpris parce que non seulement, effectivement, comme tu me dis, on voit vraiment que les jeunes sont actifs, mais j'ai l'impression aussi que les jeunes, tu sais, sont éduqués un peu plus par rapport à l'alimentation, sont au courant de ça, ils s'intéressent davantage que peut-être nous, quand on était plus jeunes, puis on n'avait pas accès justement aux médias sociaux pour avoir des recettes ou quoi que ce soit. Puis en plus, ils boivent moins d'alcool. C'est comme ça, me semble que ça coche les jeunes. Là. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a peut-être une part de ce qu'on voit, puis il y a une part de ce qu'on voit moins, c'est-à-dire que ce qui shine sur les médias sociaux, c'est quand ça va bien, justement, mais tout le revers et le pervers des médias sociaux, c'est qu'à l'inverse, justement, à force de voir ça, ben, on se sent inadéquat, un peu comme t'as vécu dimanche. Puis là, on se met de la pression, puis là, on se dit qu'on devrait perdre du poids, fait que là, on se laisse influencer, puis les médias sociaux peuvent nous amener aussi dans un raz-de-marée d'influences puis d'informations qui sont ultra contradictoires. Fait que là, on retombe aussi dans la problématique de la culture des diètes, puis de à comme
oh,
à,
c'est mêlant, là.
À vouloir couper trop, puis à vouloir perdre du poids, bien souvent, tu sais, on se nuit.
C'est l'an passé, où il y a 2 ans, il y a comme eu une mode de alimentation intuitive, là. Mm-hmm. Puis là, je me souviens, parce que moi, j'ai vu un nutritionniste sportif pendant plusieurs années, il y a plusieurs années. Puis là, je me disais, bien là, voyons, c'est parce que là, moi, je calculais tout, là, tu sais, j'étais consciente de ce que je mangeais, puis c'est encore aujourd'hui, honnêtement, ça a été une belle école. Dans la mesure où mm-hmm. je suis capable de savoir à peu près dans un repas sans tout scanner s'il manque de quelque chose. Mm-hmm. T'sais. Ça ne veut pas dire que je l'applique, mais je le sais. Tout ça pour dire que je me souviens que quand cette espèce de mode-là était passée sur les réseaux sociaux, j'étais tout fuckée parce que j'étais comme, mais là, mm-hmm. Faut-tu que je me fie à mon instinct quand je mange ou faut que je calcule ce que je mange? Parce que si je suis mon instinct, on a des chips et le chocolat. Là.
Ah, ben ça, c'est un sujet super intéressant, mais j'ai envie de te dire que l'alimentation intuitive, je pense pas que c'est une mode. C'est que ce que. Puis, tu sais, elle est vraiment mal comprise sur les médias sociaux, mais tu sais, au final, c'est qu'on a l'impression que l'alimentation intuitive, elle met de côté complètement l'aspect rationnel de l'alimentation, mais dans le fond, c'est un mix du rationnel puis de ses envies. Fait que, tu sais, je dis. Puis, il y a vraiment une nuance là-dedans, là, dans le sens que, tu sais, mettons, ça veut pas dire je mange n'importe quoi, n'importe quand. Mais mettons, sachant que moi, je me sens bien si mon déjeuner est protéiné, tu sais, ben, j'ai différents exemples de déjeuner protéiné en tête, puis je vais au feeling selon ce qui me fait du bien, puis selon ce qui me tente à ce moment-là. Tu sais, ça ne veut pas dire que je vais nécessairement manger n'importe quoi, parce qu'au final, l'alimentation intuitive, c'est si tu connais la structure optimale de ton assiette, puis que tu sais que tes légumes, c'est bon pour toi, puis que les protéines, etc., puis que tu écoutes ton corps pour manger quand tu as faim, puis tu arrêtes quand tu n'as plus faim, c'est quand même, somme toute, quelque chose qui fait beaucoup de sens. Cela dit, mais c'est ça, je pense aussi, tu sais, je reviens aussi les jeunes, tu sais, les exemples que j'ai nommés tantôt de selon moi, pourquoi en fait les personnes avaient pris du poids comme ça, il y a des éléments qui sont particulièrement marqués chez les jeunes. Fait que, tu sais, diminution des compétences culinaires, ça c'est clairement les jeunes, pas les plus vieux. Après ça, la santé mentale, j'ai l'impression que c'est plus fort chez les jeunes parce qu'on a moins d'outils. Tu sais, à un moment donné, justement, puis ça c'est une question que je pose tout le temps à mes clients, tu sais, par rapport justement au contexte de vie, au stress, puis tout. Puis tu sais, quand j'arrive au stress, souvent, là, tu sais, une femme de 40, 50 ans, sont comme, ah, ben, tu sais, je l'ai été plus jeune, mais maintenant, j'ai des outils. Puis, tu sais, on est moins challengé par la carrière, on est moins challengé par les enfants, par la vie de famille, etc. Fait que j'ai l'impression, effectivement, que ça touche plus les plus jeunes. Puis, tu sais, jeunes, là, je veux juste faire le point aussi qu'on parle de 18 à 39 ans, là. Fait que, tu sais, c'est quand même, on ne parle pas des ados, là. Tu sais, on est là-dedans, dans le fond.
Là, on parle de variantes au niveau de l'âge, mm-hmm. dans le surpoids des Canadiens. Mais est-ce qu'il y a des variantes entre les sexes? Moi, c'est un peu ce qui m'intéresse de dire, est-ce que les femmes et les hommes devraient manger de la même manière? Est-ce qu'il y a une façon de faire ça un peu plus optimale?
Avec une fourchette, une cuillère.
Oh, il y a raté toujours en plus.
Il aime ça.
Oh, il a comme fait comprendre subtilement tantôt que sa joke était pas bonne, puis il y a ramène. Il veut vraiment. Il veut vraiment.
Max, il pousse.
On aime ta persévérance, Maxime.
Merci.
Donc, les hommes et les femmes.
Ouais, fait que les hommes et les femmes, ben, en fait, évidemment, t'sais, la base, c'est la base. Là. C'est la même base pour tout le monde. Là. Fait que ça, on va se le dire.
La fourchette, la cuillère.
Elle est toujours aussi bonne.
Mais après ça, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des différences. Moi, une différence que j'observe vraiment beaucoup, first, c'est, puis je l'ai nommé tantôt, c'est que les femmes sont beaucoup plus émotives et les hommes sont beaucoup plus rationnels par rapport à leur alimentation. Évidemment, on met de la nuance là-dedans, là, dans le sens que ça ne veut pas dire que ça s'applique à tous. Mais, tu sais, les femmes ont plus besoin que ce soit bon. Les femmes ont plus besoin d'être satisfaites. Tu sais, un homme, souvent, là, tu pourrais lui dire comme tu manges ça pour déjeuner, ça pour dîner, ça pour souper, puis lui, il est bien heureux, c'est sa table, il ne posera pas de questions. Tu sais, souvent, ça pour les femmes, ça fonctionne pas. Puis il faut adresser que c'est correct que ça fonctionne pas. T'sais. Hier, j'avais une cliente qui me disait, là, moi, mon chum, parce que lui, son chum, justement, il fait un meal prep, puis il poulet, ben, la même chose à chaque semaine. Là. Mm. Puis là, elle a dit, moi, j'ai réalisé que dans le fond, j'avais besoin de variété. Je suis donc bien compliquée, moi, d'avoir besoin de variété. J'étais comme, ben non, c'est normal, là, maintenant que tu t'es capable de manger la même affaire. T'sais. Fait que bref, faut l'adresser. Faut aussi réaliser que c'est normal puis que c'est correct qu'on ait cette différence-là. Ensuite, j'ai envie de dire aussi qu'on parle souvent du chronotype. C'est-à-dire des choses qu'on dit souvent, dans le fond, c'est qu'un homme, ça roule sur un horaire de 24 heures, alors qu'une femme, ça roule sur un cycle de 28 jours.
Ah, oh, mon doux, OK. Ouais. Ça fait une grosse différence.
Ça fait une grosse différence sur nos besoins, nos envies. Puis encore une fois, si on ne les comprend pas, puis si on lutte contre ça, bien, ça se peut qu'à un moment donné, on ne se comprenne pas, puis qu'on se demande pourquoi on a de la misère à manger ci ou ça, puis que nos besoins ne sont pas nécessairement comblés. Notamment, mettons, quelque chose qui a été super populaire dans les dernières années, qui l'est encore d'ailleurs, là, le fameux jeûne intermittent. Oui. Jeûne intermittent, ce qu'on observe, c'est que d'un point de vue en lien avec le profil hormonal, puis en lien avec tout ce que je vous ai parlé par rapport à la relation à la nourriture, puis d'un point de vue émotionnel, les hommes répondent beaucoup mieux au jeûne intermittent que les femmes.
Je le faisais sans même faire exprès, juste dans mon horaire de travail. Tu sais, je mangeais le soir, je déjeunais pas. Fait que quand je remangeais, il était rendu passé midi ou à peu près midi. Je pense que ça comptait dans le jeûne intermittent, ce que je faisais.
Ah, ça compte, certain.
C'est ça. C'est mais là, maintenant, je déjeune parce que avec mon autre show après, mm-hmm. je me...
Fait que le jeûne intermittent n'est pas tant bon pour la femme, dans le fond?
Non, majoritairement. Là, puis, tu sais, tout a besoin d'être personnalisé dans la vie, là, mais majoritairement, pour la femme, on recommande vraiment un déjeuner protéiné avant 10 heures. D'un point de vue hormonal, c'est vraiment plus favorable. Fait que, puis, tu sais, il y a aussi, justement, comme je disais, fait que le 24 heures, mais le fameux cycle de 28 jours, justement, de la femme, qui fait en sorte qu'il y a des périodes où elle va avoir plus ou moins faim, il y a des périodes où elle va avoir plus ou moins d'énergie, puis c'est correct de l'adresser, tu sais, notamment en SPM, moi, je dis toujours que je pourrais savoir que je vais être dans ma semaine juste oui. parce que, juste à la manière que je mange, là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, puis c'est normal.
Vous autres aussi, on le sait quand vous êtes sur le bord de
l'air. Oh, not bonne joke! Mais qui l'a invité, lui?
Hey, je sais pas, je commence à penser à ça, là.
C'est comme notre mononcle.
Oui, vraiment. Hein? Un peu trop jeune pour ça, Max. Donne-toi le temps, là.
On essaie d'être sérieuse, nous, Maxime.
Tu parles d'hormones. Je vais faire le pont tout de suite vers le livre ouais. que tu as écrit, parce qu'après, je pense que ça vaut la peine de parler des hommes et des hormones, à savoir s'il y a un lien de ce côté-là. Mais ton livre vise vraiment la femme.
Oui, oui, 100%.
Puis j'ai comme le goût que tu nous en parles un peu, parce qu'assurément que je vais le lire, ce livre-là.
Oui, bien, dans le fond, ça s'appelle « Hormones et alimentation, les fondements de la santé féminine ». Ça a été publié aux éditions de l'Homme, et c'est en librairie, là, dans toutes les grandes librairies, depuis le 19 septembre. C'est un livre que j'ai co-écrit, en fait, avec Dr Manon Charlebois, qui est gynécologue, en fait. Et on a vraiment voulu répondre à un besoin, parce qu'il y a extrêmement de publications comme celui-ci en anglais, en fait, dans le marché anglophone, mais très peu en français. Et les habitudes de vie ont vraiment un impact sur nos hormones. Puis ce qu'on observe, c'est que plus que jamais, les femmes se posent des questions sur leurs hormones. Ils ont des symptômes, puis ils sont comme, écoutons, je me comprends pas, tu sais, c'est-tu mes hormones? On a commencé à en parler de plus en plus. Maintenant, on a beaucoup parlé de la ménopause avec l'automéno puis Véronique Cloutier. Mais les hormones, c'est pas juste une question de ménopause. T'sais, bien avant la ménopause, on peut avoir des fluctuations hormonales. Maintenant, notamment, on sait qu'il y a la périménopause. C'est 7 à 10 ans avant la ménopause, puis c'est là qu'on a les plus grandes fluctuations hormonales. Fait que les femmes sont conscientes de ça, puis ils veulent avoir des réponses à leurs questions. Puis non seulement ils veulent avoir des réponses à leurs questions, mais ils veulent avoir des stratégies puis des solutions pour leurs symptômes. Fait que, puis il y en a, tu sais, je peux... Évidemment, là, c'est pas l'alimentation qui va faire en sorte que vos hormones de reproduction vont pas diminuer là, à cet âge-là, mais quand même de le prévenir, c'est tout à fait intéressant. Fait que dans le fond, dans le livre, tu sais, la première partie, c'est plus Dr Charlebois qui l'a rédigé. Dans le fond, on est vraiment plus dans l'explication de nos hormones, de l'effet que ça peut avoir sur notre corps, puis on répond à la fameuse question, bien, comment on fait pour savoir, dans le fond, si c'est mes hormones le problème ou si c'est d'autres choses, tu sais. Mm. Fait qu'on essaie, il y a une
pas qu'ils aient le dos large, là.
C'est ça, parce que des fois, c'est la réponse facile aussi. Fait qu'il y a une comme de littératie de base que je pense qu'il y a plusieurs femmes qui n'ont pas en lien avec le cycle menstruel et les hormones. T'sais, nous, on n'a tellement pas été éduqués là-dedans. Là. Puis, moi, ça fait 3 ans que je me forme. Puis, je suis partie de rien. Là. Genre, je savais vraiment rien. Puis, c'est fou comment qu'on en apprend. Fait qu'après, dans la deuxième partie, on parle de. Dans le fond, il y a des éléments aussi, des éléments de santé, j'aimerais dire, ou de ton environnement, ou de tes habitudes de vie qui ont vraiment un impact aussi sur ton équilibre hormonal puis les symptômes qui peuvent en découler, notamment la santé métabolique. Fait qu'on a parlé d'obésité, mais aussi, tu sais, de diabète, résistance à l'insuline, stéatose hépatique, une maladie au niveau du foie, le microbiote intestinal dont on parle de plus en plus. Tu sais, ça aussi, les gens, ils ont des troubles digestifs incroyables. Mm. Tu sais, on en mange des aliments transformés, fait qu'on mange des molécules, effectivement, qui peuvent nous créer des problèmes. Les fameux perturbateurs endocriniens, ça, je pense que je l'avais abordé très rapidement, justement, la dernière fois. J'ai vu ton regard et tes sourcils.
Oui, que c'est ça.
Fait que je pense que effectivement ça mérite quand même d'être défini. En fait, les perturbateurs endocriniens, ça c'est quasiment inquiétant quand on commence à s'intéresser à ça, là, parce qu'il y en a absolument partout dans notre environnement. Tu sais, on fait la guerre aux microplastiques, là, mais les microplastiques, c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Il y en a dans les textiles, dans les aliments, dans plein d'affaires. Mais ce que c'est, en fait, un perturbateur endocrinien, c'est des molécules qui ont été est vraiment identifié là, d'un point de vue scientifique pour avoir le potentiel d'aller perturber notre équilibre hormonal, finalement. Hmm. Fait qu'ils peuvent se lier aux récepteurs, ils peuvent éviter, mimer, dans le fond, l'action de certaines molécules. Fait que ça peut vraiment foutre le bordel dans notre équilibre hormonal. Puis c'est pas pour rien si, justement, on a de plus en plus de symptômes liés au SPM, à la ménopause. Les jeunes femmes, ils ont leur puberté de plus en plus jeune. Oui. Il y a des problèmes de fertilité plus que jamais. C'est en partie en raison de ça. Fait qu'il y a quand même une éducation à avoir par rapport à ça parce qu'il y a des petits changements qu'on peut faire, tu sais, qui sont assez simples. Moi, j'ai fait des changements dans ma cuisine, dans mon alimentation, mais il y en a aussi notamment au niveau des produits cosmétiques, là. Tout ce qui est cosmétique, tout ce qu'on se met sur la peau, les crèmes, les shampoings, on voit beaucoup apparaître des marques qui sont clean, là, comme il y a Attitude notamment que j'ai en tête, qui fait des produits qui sont clean, qui sont sans fragrance. Tout ce qui est parfumé, là, les fameuses chandelles, là. Tu sais, là, on se tourne vers des chandelles de soya, justement, parce que c'est des produits qui sont sans perturbateurs endocriniens. Fait que c'est comme des molécules chimiques, finalement, qui sont dans notre environnement, qui, sans qu'on le sache, perturbent notre équilibre.
Puis donnez-vous dans ce livre-là des conseils nutritionnels un peu plus précis, des recettes, des...
Mais j'y venais.
Je demande vraiment pour une amie.
Ouais, fait que la troisième partie, justement, donc, tu sais, la deuxième partie, c'était vraiment nous deux qui étaient là-dessus. La troisième partie est un petit peu plus, tu sais, c'est le fruit de mon travail, en fait. C'est vraiment, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut... Puis on est vraiment en mode prévention, là. C'est-à-dire que c'est un livre qui est général. On s'adresse pas à une fille ou une femme qui a une pathologie quelconque, tu sais, SOPK, ou qui a vraiment des symptômes super importants, là. On suggère de consulter, en fait. Mais, tu sais, pour toi et moi qui veulent juste comme limiter les effets potentiels de nos hormones, effectivement, il y a des recommandations nutritionnelles de base, il y a des recettes, il y a des aliments coup de cœur à intégrer, il y a des aliments peut-être qu'on doit faire plus attention. Fait que je trouve que c'est intéressant, puis je trouve que c'est un sujet justement sur lequel on n'est pas assez formé. C'est un message qui doit passer, puis je pense que les gens s'y intéressent de plus en plus parce que c'est comme s'il y avait des pièces qui nous manquaient au casse-tête, j'ai l'impression.
Un petit manque d'éducation. Là.
C'est ça, exactement.
Fait pour que... nos boys, est-ce que les hormones, ça peut avoir un impact où eux ne sont pas affectés par ça? Parce que des fois, j'ai le sentiment qu'on a le... Vous savez pas c'est quoi être une femme, puis vous en avez pas de problème, vous autres. Mais je me dis, est-ce qu'il y a un impact qui peut être lié pour eux aussi?
Bien, l'impact des hommes est vraiment plus bas. T'sais, les hommes, leur hormone maîtresse, dans le fond, c'est la testostérone. La testostérone, effectivement, qui va diminuer. Puis il y a certains symptômes, il y a certaines personnes, certains hommes, en fait, qui vont vraiment vivre des symptômes liés à la chute de la testostérone, t'sais. Mais c'est vraiment pas marqué, puis c'est beaucoup moins fluctuant que nous, là. Puis tu sais, la femme, là, d'ailleurs, la semaine dernière, vendredi dernier, j'étais à un colloque sur la santé hormonale et j'ai appris des choses. Je suis désolée, Max, je vais retourner sur le sujet de la femme. Désolée, les hommes. En fait, la testostérone chez la femme, c'est fascinant, là, comment que justement, il y a des femmes qui peuvent... En fait, ce qu'elle disait, là, la spécialiste de la testostérone chez la femme, c'est que c'est comme si on avait un pool de testostérone quand on était jeune, puis que plus qu'on a une vie, tu sais, qui va vite, plus qu'on se donne, plus qu'on fait de sport, c'est comme si plus qu'on est active, plus qu'on dépense notre testostérone, puis à un moment donné, on se ramasse testostérone en plat, puis on est sur le cul. Elle, elle a été là pendant genre... C'est une médecin, là, fait qu'une fille de tête, là. Puis elle a été pendant 6 ans sur le cul en dépression solide jusqu'à temps qu'elle réalise que sa testostérone était complètement à plat.
Puis de plus en plus, on parle d'hormonothérapie, ouais, justement, pour venir aider puis balancer.
Oui, exactement. Puis il y a des choses intéressantes à faire avec l'hormonothérapie, puis je pense que c'est de plus en plus accessible, fait que ça vaut la peine aussi de s'y intéresser. Fait que testostérone chez la femme, j'étais comme, OK, bien, dans notre société de performance, quand même, c'est vraiment intéressant.
C'est un jeu, là.
Oui, fait que c'est ça. Ça peut arriver chez l'homme aussi, là. By the way, mais effectivement, tu sais, c'est
fait
vraiment...
Fait que le gars a moins à surveiller, je vais dire, son alimentation pour bien filer corporellement, là.
Ouais, ben,
au niveau des hormones.
Au niveau des hormones, c'est ça. Lui, il peut avoir d'autres problèmes. T'sais, les hommes sont plus touchés par les pathologies cardiaques, surtout en jeune âge. Justement, la femme, quand elle approche la ménopause avec la baisse des hormones de reproduction, il y a plein de facteurs de risque qui... Parce que ça a un effet protecteur aussi, les hormones de reproduction. Oui. Ça nous protège contre la résistance à l'insuline, ça nous protège contre la santé, les pathologies en lien avec la santé cardiaque. Mais quand ils diminuent, ben, ce risque-là augmente.
Hormones et alimentation, les fondements de la santé féminine. On nous le demande par texto, c'est comme ça que le livre s'appelle. Félicitations, oui, en passant. Avant de te laisser aller, question d'auditeur, rapidement, il y a quelqu'un qui nous demande, on revient sur le jeûne intermittent, je ressens pas la faim avant 15 heures environ. Par contre, je mange toujours extrêmement santé à mon premier repas de la journée, c'est-à-dire un souper. Est-ce que je suis normale? C'est Philippe.
Philippe, donc un garçon.
Moi, je me suis dit que ça valait la peine de le dire. Là.
Mais là, en fait, l'information que j'ai pas, c'est s'il mange seulement un repas dans la journée.
On dirait, c'est pratiquement.
Honnêtement, il y a des des médecins qui sont pro-jeunes qui vont faire ça, même qui suggèrent. L'enjeu avec ça, dans le fond, c'est que ça devient extrêmement difficile de combler ses besoins nutritionnels sur une seule prise alimentaire. Il faut que ton repas soit ça coche en salle. Tu manges une poutine une journée comme ton repas, puis t'as pas...
Il dit des petites collations à la limite comme des yup ou des smoothies, mais pas de vrai repas avant le souper.
OK. Ben en fait, si tu as toujours été comme ça, ou je connais pas Philippe, mais s'il y a un historique aussi d'avoir voulu perdre du poids, d'avoir fait des restrictions, plus qu'on a challengé son corps puis qu'on l'a habitué à fonctionner avec un faible niveau de calories, le corps, c'est une machine qui s'adapte à merveille. Fait que peut-être que son corps, maintenant, lui, est capable de fonctionner à, je dis n'importe quoi, à 1500 calories parce qu'il a fait ça toute sa vie. Tu sais, il s'est adapté comme ça. Puis là, si je dirais à Philippe, aujourd'hui, tu manges 2500 calories, non seulement il serait bourré raide, mais à longue, il prendrait du poids, tu sais. Fait que notre métabolisme peut s'adapter comme ça.
Il faut apprendre à se connaître, finalement. Mm-hmm. Consultez si vous avez besoin. Moi, c'est ça que je retiens, là, parce que souvent, on cherche une recette magique ou une information générale qui pourrait s'appliquer à tous, mais ça marche pas comme ça, dépendamment de votre métabolisme, de votre corps, de votre quotidien. Mm-hmm. Vanessa Daigle, nutritionniste, c'est on peut te rejoindre sur pas mal toutes les plateformes.
Ben, je suis pas sur TikTok. Moi, je me suis pas rendue là. Mais
pas
le reste,
sur TikTok non plus.
Le reste, Instagram surtout, Van Baramba nutritionniste.
Merci, Vanessa.
Merci, Vanessa. Merci, Audrey. Au retour, prédiction osée en vue de la saison 2025-2026 du Canadien de Montréal.
Le Point Max. Avant d'acheter une auto,